I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Tout de suite, retrouvez l'invité de la séance live.
Notre invité du jour, et on a déjà eu l'occasion de la voir sur Séance Radio, c'est Marc Ollerich de Lost Film pour nous parler d'un superbe film justement qu'il a distribué, qu'il présente. C'est We Blow It. Bonjour Marc.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver sur Séance Radio. Et en plus pour ce superbe film réalisé par Jean-Baptiste Torret. Racontez-nous cette belle histoire, film qui est dans les salles de cinéma depuis le 8 novembre et qui est toujours dans les salles de cinéma. Et en plus, vous partez en tournée, si j'ai bien compris. Alors, on va tout expliquer à nos auditeurs. Alors, We Blow It, tout d'abord, ça parle de quoi, Marc ?
Alors, We Blow It, c'est vrai que c'est dur de résumer parce que c'est un film qui a plusieurs couches, c'est un millefeuille, il y a plein de strates pour le découvrir. Je pense que il y a le passionné d'Amérique qui peut découvrir ce film. Moi, c'est souvent, voilà, on a trouvé une petite tagline pour résumer qui est l'Amérique d'Easy Rider à Donald Trump, parce que c'est vrai que c'est un peu tout le spectre du film, c'est-à-dire à la fois parler de cinéma, de l'Amérique, de politique, de culture américaine, de musique, de cinéma, c'est un peu tout ça. Les gens connaissent Jean-Baptiste Torret parce que c'est un critique, il a aussi enseigné en faculté, il a écrit beaucoup de livres, il tenait des émissions de radio, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'Amérique, à la fois le Nouvel Hollywood, hein, qui est un peu son dada, le cinéma américain des années 70, il avait fait un très beau livre aussi sur le road movie, et c'est vrai que les gens au départ s'attendent de la part de Jean-Baptiste à retrouver ce qu'ils connaissent un petit peu du personnage parce qu'ils ont écouté ses émissions ou vu des bonus de DVD qu'il a pu faire, et s'attendent par exemple à un documentaire de cinéma sur le cinéma américain ou un documentaire sur le Nouvel Hollywood qui serait un peu la bible de tout ce qu'il aurait pu faire par le passé, mais c'est pas ça du tout, c'est
Tout ça
l'a nourri en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment, c'est son premier acte, j'ai envie de dire, de cinéaste, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est un premier film de cinéma, et que quand, et j'insiste là-dessus, hein, même s'il y aura un très beau DVD Blu-ray en préparation dans quelques mois avec Potemkin, c'est un film de cinéma parce que en scope, parce qu'une bande son géniale, et parce que c'est un vrai vrai spectacle de cinéma. On est très très loin du petit documentaire fauché. Il y avait une vraie ambition, et ce qui est aussi un peu particulier, c'est qu'alors quand je l'ai découvert, alors j'ai fait un truc affreux, c'est quand il m'a proposé le film en juin, j'ai découvert sur mon ordinateur, c'est la dernière chose à faire, mais il y a un truc qui est indéniable, c'est que dès les premières minutes, on est happé par le ton, le style, les cadrages, les couleurs, l'ambiance.
Rien que le générique de début.
Et puis,
je ne sais pas combien de temps il a mis pour faire ce générique de début, mais c'est un film à lui tout seul.
Ouais, c'est mis en couche en fait. C'est marrant parce qu'il en reparlait encore il y a pas longtemps. On fait beaucoup de présentations en salle, en public. Et là, je crois qu'il m'a dit que ça avait dû prendre 3 semaines presque, parce que c'est un enchaînement de plein de petites images. En fait, c'est un précipité des années 70. C'est-à-dire que tous, quand on pense Amérique, années 70, contre-culture, Woodstock, et les pattes d'Ef, et on fume, et les concerts, les manifestations, le féminisme,
la liberté,
la liberté, les droits civiques, le Vietnam, Nixon, tout ça. On a des idées un peu préconçues, et en fait, il a voulu se débarrasser de tout ça. C'est-à-dire qu'il plante un peu le décor de façon très, presque violente, hein, parce que c'est un montage qui va très vite.
Et puis si on le prend au premier degré, on va pas plus loin. On se dit, ah non, mais tout ça pour ça. On a envie d'aller plus loin, et à la fois, c'est on se dit, ah ouais, quand même, il s'est passé tout ça, quoi.
En fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans l'inconscient collectif, les États-Unis et les années 70, c'est ça. Et son film sera après tout le contraire, c'est-à-dire rentrer dans les détails de ces personnes qui ont pu vivre cette période. Alors lui,
oui, parce qu'on on a autant des gens connus qui sont des réalisateurs, des gens qui sont du cinéma, comme des inconnus.
Le projet il a un petit peu glissé. C'est vrai que Jean-Baptiste, au tout départ, son envie c'était retrouver ces gens qu'il a croisés, qu'il a interviewés longtemps, soit pour les journaux, soit pour ses livres, et les remettre dans les situations de leur vie, c'est-à-dire pas les interviewer tranquillement chez eux, dans leur maison ou leur villa ou je ne sais où, mais les remettre par exemple dans des décors de leurs films ou dans des endroits très très spécifiques. Alors évidemment, c'est vrai que le spectateur qui débarque peut se dire... parce que ce que filme Jean-Baptiste après l'Amérique, même si c'est magnifique, on est très loin du cliché, justement. Il se débarrasse des clichés au tout début dans ce montage-là, mais après, on va pas voir la Statue de la Liberté à New York, ou le Mont Rushmore, les statues des présidents comme dans La Mort aux Trousses, ou Monument de Valley de Ford. Ça, c'est des choses qu'il aime et qu'on connaît tous. Et justement, il va plus en profondeur, par exemple, en revenant sur un film qu'il aime beaucoup et qu'il a toujours défendu, un réalisateur comme Richard Sarrazin, pour Point Limite Zéro. Et il va donc dans la ville de Goldfield, qui est une espèce de ghost town comme ça, qui n'a pas bougé depuis plus de 40 ans. Et il va voir, justement, en allant sur place, en filmant là, il aurait aimé avoir Richard Sarrazin, mais c'est vrai que Richard Sarrazin, c'est un réalisateur qui est mort. Et en fait, il y a plein de gens comme ça, malheureusement, qui sont morts. Il y en a qui sont toujours vivants et qu'il a recontacté et vu. Et en faisant ces repérages, au moment justement de l'année 2016 des élections américaines, en tout début d'année, donc il sillonne les États-Unis en essayant de trouver justement où il va mettre justement tous ces intervenants, et il est confronté à un réel qui le dépasse, où évidemment tous les Américains ne parlent que de ça, l'élection. Et en fait, il en vient d'un coup à faire des rencontres de... à un moment, c'est un gars qui tient une épicerie.
Des rencontres civiques, quoi.
Voilà, des vraies rencontres d'Américains méconnus, mais qui ont la même parole et la même importance dans son film que celle qu'il va donner à Michael Mann, qu'il adore et dont il parle beaucoup. Ça fait des années qu'il doit faire un livre et tout le monde lui demande alors quand est-ce que sort ton livre sur Michael Mann. Mais voilà, il le fera, j'espère, très bientôt. Et en fait, il donne le même temps de parole et la même importance à ces gens-là. Alors après,
oui, parce qu'au moment de son repérage, il s'est retrouvé face à toute cette énergie qu'il a donné envie de faire parler, en fait.
On parlait que de ça, et en fait, pareil, ils portent pas jugement, c'est-à-dire qu'ils ont tous le même temps de parole, et qu'ils soient pro-Trump ou pro-Clinton ou indécis, ou qu'ils aient retourné leur veste parce que peut-être à l'époque des années 70, ils étaient bikers et puis et plutôt libertaires, démocrates, et puis ils sont peut-être amenés cette année à voter Trump. Et en fait, il essaie un peu de saisir tout ça, c'est-à-dire toute cette ambiance avec des figures imposées, parce qu'il savait qu'il allait retrouver Jay Schatzberg à New York, sur le banc où il avait tourné Panic at Needle Park. Mais évidemment que ce coin-là de Panic at Needle Park a beaucoup changé. Et il sait qu'il va retourner aussi à Dallas, parce que c'est pareil, Jean-Baptiste avait fait un livre autour de l'importance dans le cinéma et dans la culture américaine de l'assassinat de Kennedy, sur la suite de la culture.
Et on voit à quel point ça a marqué les gens, aussi bien donc la mort de Kennedy que le Vietnam, on y revient plusieurs fois, et des témoignages très touchants d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il évoque tout ça, comme ça, et les gens aussi... se dévoile, c'est-à-dire que par exemple, on apprend que quand il va interviewer un réalisateur qu'on connaît ou qu'on connaît pas comme Peter Yams, ce qui l'intéresse, c'est de dire que d'un seul coup, ce réalisateur-là, par exemple, avait fait le Vietnam. Donc en fait, à chaque fois, quand il avait 140 heures de rush, donc c'est vrai qu'il aurait pu faire
140 heures de rush, il aurait pu en faire deux même.
Et ça sera l'histoire de l'édition DVD ou Blu-ray, je pense qu'il a intégré certainement des beaux bonus là-dessus. Mais c'est vrai que l'idée, c'était un petit peu de rendre compte de ça. Après, avec une question, en effet, qui était un peu le moteur du film, c'est comment en fait ces années-là complètement folles qu'ont pu vivre ces gens-là, les années 70, les ont marquées, comment l'empreinte qu'elles restent, et en fait maintenant, qu'est-ce qui reste de ça?
Il y a beaucoup de nostalgie en fait à travers le film. Voilà, des gens qui se disent plus jamais on aura une époque pareille.
Ben en fait, c'était une période où tout se mêlait, c'est-à-dire à la fois l'énergie politique, une énergie créatrice musicale dans le cinéma, et tout ça se mêlait, c'est-à-dire que dans le cinéma, on parlait de politique, la musique aussi avait une importance folle. Le film s'ouvre aussi sur l'explication du titre We Blew It, qui est dû à un dialogue de Easy Rider. Et c'est vrai que voilà, c'est le nouvel Hollywood, ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, c'était tout ça, c'était rendre compte de l'Amérique et d'une génération. Et ben cette génération, en effet, elle est vieillissante, où des réalisateurs ont disparu, et il a essayé de saisir tout ça.
Et alors Jean-Baptiste, quand il est venu vous voir, comment ça s'est passé la rencontre?
Alors moi, je connaissais il avait l'idée de ce projet-là parce qu'on s'était croisé il y a 3-4 ans. J'avais ressorti un film de John Frankenheimer qui s'appelle Seconds, l'opération diabolique, avec Rock Hudson. Et Jean-Baptiste avait vraiment été un beau parrain pour le film, parce qu'il m'avait écrit un texte autour du film, et puis il m'avait aussi fait rencontrer les gens de France Inter qui m'avaient permis un partenariat. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait en tête ce projet-là de documentaire, avec vraiment l'idée d'y mettre les formes, hein, parce que ça, c'est vrai, j'insiste là-dessus.
Et on n'est pas dans un documentaire normal, hein.
Le scope, il a tourné avec une équipe d'une douzaine de personnes à travers tous les États-Unis avec deux caméras, et il y avait vraiment cette ambition là dans le projet, et donc il m'avait déjà parlé. Et c'est vrai que quand j'ai su que là le film se finissait en mai juin dernier, je me dis qu'il avait commencé à faire des projections, j'avais pas pu le découvrir. Après il a proposé plusieurs distributeurs, et puis moi je l'ai vu alors tout de suite sur mon ordinateur. J'étais, comme je disais, en fait dès les premières secondes je me dis waouh, sans arrêt le plan d'après, l'intervenant d'après. Parce que c'est vrai que quand on a l'idée d'un documentaire, on pense toujours que l'intérêt du film tient à la parole et à ce qui est dit. Et là, pas que, parce qu'en fait, c'est plus qu'un documentaire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mise en scène. Et moi, quand j'ai découvert le film, et je pense que c'est aussi le cas pour d'autres spectateurs, on a vraiment l'impression de voir une fiction, parce que ce sont tous des personnages à part entière. C'est-à-dire qu'on arrive dans un décor, dans un lieu. On ne sait pas toujours ce qui va se passer, ça passe des fois par les silences.
Des gros silences, on est vraiment avec les gens, c'est impressionnant. Les plans fixes sur les gens, c'est fou.
On est immergé avec eux, alors après on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent, mais je pense que justement il leur rend hommage, il leur donne tous la même place. Et puis évidemment il y a un plan final, on n'en parle même pas, c'est faut le voir en salle pour comprendre, où là il y a un vrai parti pris. Et moi, quand j'ai découvert, je me suis dit, j'espère qu'il me confiera le projet, parce que c'est vrai qu'il avait pensé aussi à d'autres distributeurs. Et puis je pense qu'on s'est un peu trouvé, en proposant une sortie à taille humaine, où la presse nous a beaucoup suivis, certaines salles de cinéma aussi, et puis l'envie de partager ça avec le public. Là,
alors justement, parlant du public, vous êtes parti un petit peu de partout. Vous arrivez d'où là?
Alors là, on est arrivé hier de Montpellier, où alors là c'était épique, l'Utopia Montpellier, ils ont été obligés d'ouvrir une deuxième salle pour faire rentrer les spectateurs qui n'avaient pas pu rentrer dans la première, où il y avait déjà 130 personnes. Là, ça fait plaisir. Là, que le coup, on se dit, là, ça nous échappe. En fait, le cinéma, c'est ça. C'est vrai que quand on sort un film, on ne sait jamais ce qui va se passer, parce que le public, il est au rendez-vous ou pas. Et puis, il y a tellement de films qui sortent, des fois tellement d'événements dans une salle de cinéma. Et hier, après, on est retourné. C'est marrant. Donc, on est rentré hier midi de Montpellier. Et hier soir, on était à Enghien-les-Bains, qui commence à jouer le film dans cette semaine. Et Jean-Baptiste, c'est vrai que pendant des années, avait animé un ciné-club là-bas. Et donc c'était un petit peu émouvant pour lui, parce qu'il avait pris l'habitude de parler d'autres réalisateurs, et là il parlait de son propre film face à un public, des gens qui le suivaient, quoi, qui venaient tous les mois découvrir ce qu'il a dit dire sur à l'époque Cimino ou Ford. Donc là c'était assez émouvant. Et puis ce soir on part en voiture, on va à Auxerre, demain on sera au Havre, et alors très très important, le film est sorti à Paris au Grand Action, on avait fait une très belle soirée il y a 2 semaines, et là on en refait une deuxième séance en présence de Jean-Baptiste, avec une rencontre dimanche prochain, donc le 26 novembre à 16h.
D'accord, voilà. Et ça ce sera à quel cinéma?
Au Grand Action, à Paris, rue des Écoles, à côté de Jussieu. Et puis ça continue comme ça jusqu'au 19 décembre. Là, il nous reste encore 16 dates.
Où on peut rencontrer Jean-Baptiste, où on peut justement vous rencontrer et poser des questions.
On pose des questions, alors c'est marrant parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont suivi, donc il y a toujours quelqu'un aussi qui arrive et qui sort un livre qu'il a pu faire sur Argento, sur Road Movie, sur le cinéma américain pour une dédicace. Et puis nous on a prévu aussi il y a des petits cadeaux pour les spectateurs, des badges, des affichettes, des choses comme ça pour que ça reste un beau souvenir.
Alors là c'était un beau cadeau déjà à Montpellier qu'on ouvre une deuxième salle pour pouvoir mettre le public. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces rencontres avec le public? Il y a des questions, un moment plus émouvant l'un que l'autre qui vous a marqué?
Ben après, je pense que les gens, selon les générations, s'approprient le film. Parce que, évidemment, qu'il y a des références au cinéma, que quand on découvre une scène, ben ça peut nous évoquer un film qu'on a déjà vu, ou une musique qu'on connaît, qui nous renvoie à quelque chose. Je pense que ce qui est important aussi, c'est la diversité aussi des gens, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des étudiants, des jeunes qui n'ont pas du tout vécu cette époque-là, et puis ben des cinquantenaires ou des personnes plus âgées qui ont vécu les années 70 mais en France, et puis tous en fait on a une espèce de fantasme d'Amérique, c'est-à-dire avec des idées très précises, et je pense que le film c'est vraiment ça, c'est un voyage à la fois temporel, musical, historique, cinématographique sur l'Amérique. Et après, alors les questions, bah, assez souvent, oui, il y a des questions qui reviennent sur, en effet, pourquoi tel réalisateur ou tel personnage plutôt qu'un autre, parce que c'est vrai que c'est assez large le spectre de ce cinéma-là, du nouvel Hollywood ou des années 70. Comment s'est dessiné en fait le projet, c'est-à-dire que c'est à la fois un road movie, mais c'est plus compliqué que ça parce que on va pas d'un point A à un point B, mm-hmm. C'est un road movie aussi un peu mental, c'est-à-dire qu'on voyage à travers les États-Unis, mais on suit pas la route 66 d'est en ouest ou vice versa.
Vraiment le montage est vraiment tout.
Question, c'est marrant, qui revient assez souvent, quand est-ce que sort le disque ou la BO? Et parce que voilà, c'est tellement riche. Donc moi j'ai décidé, ce que j'ai pas dit, oui c'est vrai que le film se raconte et se tourne à travers les États-Unis, mais à part cette séquence d'ouverture qui est un espèce de montage d'archives très très divers, il n'y a pas du tout ensuite d'extrait de cinéma. C'est-à-dire que le film se raconte pas à travers les extraits de cinéma. Il va évoquer le cinéma tout le temps, il va, j'ai envie de dire, transpirer par tous les pores le cinéma ou des scènes ou des films comme ça mythiques des années 70, mais il n'y a pas d'extrait. C'est vrai que ça passe beaucoup par la musique et c'était aussi un choix de production, c'est-à-dire d'acheter les droits musicaux de ces chansons-là ou de certaines même de certains extraits de musique classique ou de musique de films existants. Mais malheureusement, il n'y a pas de CD qui existe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est alors avoir la liste, la référence exacte de tous les morceaux.
En tout cas, on retrouvera bien. Pour le moment, on peut vous retrouver dans les cinémas et puis dimanche 26 au Grand Action et puis encore partout en France. Et puis surtout, on aura un très beau DVD, j'en suis sûr, avec des.
Ça
se prépare bien, ça.
Super boulot. Ouais. Merci.
Alors, les films reflètent qui nous sommes. C'est ce qui se dit aussi dans We Blow It. Est-ce que justement ça reflète un peu Jean-Baptiste?
Je pense que oui, ça c'est clair et net. Après, il faut l'entendre parler de son film pour le comprendre à quel point le film en effet fondateur, j'ai envie de dire, qui lance le film et qui donne son titre, c'est Easy Rider, mais c'est vrai que c'est les autres films qui, je pense, il le dit souvent quand il parle de lui ou de son film, son Citizen Kane à lui par exemple, c'est La Horde Sauvage de Peckinpah, c'est-à-dire que c'est un film qui, je pense, l'a marqué, où il s'est rendu compte d'un seul coup de la puissance du cinéma, de la mise en scène, il y a plusieurs hommages comme ça à Peckinpah ou à La Horde Sauvage, à d'autres titres, évidemment, à d'autres films. La séquence finale renvoie un film un peu méconnu qui s'appelle Electric Glide in Blue. Il y a évidemment des réalisateurs qui l'aiment et qui l'a suivi, comme Bogdanovich, comme Schatzberg, comme Michael Mann, et puis d'autres plus méconnus, comme Jeff Lieberman. Il donne la parole aussi à une réalisatrice des années 70, mais qui a été obligée de raccrocher les gants, qui s'appelle Stéphanie Rothman. Moi, il y a plein de gens que j'ai découvert que je connaissais pas. Je pensais, je me croyais cinéphile et savoir plein de choses. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est que je pense que le film, en le voyant et en le revoyant, non seulement il y a des choses qui sont données à voir dans la composition des plans, du montage.
Et ça amène à la curiosité aussi, à aller découvrir les gens qu'on ne connaît pas.
De revoir ces films-là, voilà. C'est-à-dire se dire, ah bah tiens, Charles Burnett, son réalisateur noir, je connais son nom, mais qu'est-ce qu'il a fait? On est incapable des fois de citer un titre, et puis après, bah, c'est pareil, les films, ils sont accessibles ou pas, ils existent en DVD ou pas, on peut les voir sur le câble ou pas, ou ils sont ressortis ou pas. Et par exemple, oui, ces deux personnages qui représentent un petit peu les deux faces de la culture black américaine, c'est-à-dire le réalisateur Charles Burnett, qui est plutôt marqué par les années 70, les droits civiques, et puis Fred Williamson, qui lui, qui est une vedette de la black exploitation, donc qui lui a pris le train en route des années 70, a été une vraie vedette de la black exploitation.
On apprend plein de choses. Marc, au-delà de d'avoir eu cette belle opportunité de distribuer ce film, c'est aussi une aventure humaine avec Jean-Baptiste.
Moi je passe des journées avec lui, à l'entendre parler, à le suivre. C'est quelqu'un, c'est un passeur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de formidable, parce qu'il a une vraie, il a toujours eu, je pense, cette exigence dans même dans ses choix critiques à l'époque de quel film on parle, quel film on soutient, et je me retrouve complètement, parce que c'est vrai que quand on est distributeur, c'est la même chose, on a envie de soutenir un film, un choix, et de le partager avec le plus de monde possible, et je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire, et ce qu'il continue de faire avec ce film, c'est-à-dire avoir une vraie exigence sur un certain cinéma américain. Et c'est vrai que quand il parle d'âge d'or dans son film des années 70, c'est parce qu'aussi on voit vraiment la différence dans la production actuelle, qui, même s'il y a des très belles exceptions et tous les ans des très beaux films de Jeff Nichols ou de James Gray, de Wes Anderson, de temps en temps de Michael Mann, parce qu'il tourne pas souvent, même Catherine Bigelow, voilà, c'est quelqu'un qui continue justement d'avoir de porter haut les couleurs du cinéma américain, et puis même de montrer la société. Détroit, c'est vraiment typiquement un film qui aurait pu être un film des années 70 dans son traitement, dans la façon de mettre en scène les personnages, plusieurs points de vue, de reconstituer les choses, même même visuellement presque. Il y a un traitement qui est proche de ça, et c'est vrai que ça fait plaisir, parce que moi je me reconnais et je suis fier et content de pouvoir justement montrer le film de Jean-Baptiste.
Une amitié qui s'ouvre en tout cas, et j'espère un autre projet ensemble avec Jean-Baptiste pour vous. Marc, merci d'avoir été avec nous. On donne rendez-vous bien sûr aux auditeurs qui sont du côté de Paris dimanche 26 novembre au Grand Action. Et puis pour avoir les dates de tournée, on peut les retrouver quelque part ?
Sur le site de Lost Film, il y a une page Facebook aussi, We Blew It. Mais c'est vrai que là, cette semaine, on est très parisien ou région parisienne, puisqu'on va être aussi à Pantin, à Meaux. Et après, il y a une petite tournée dans le Finistère. Il y aura aussi encore de très belles villes comme Poitiers, Angers, Lyon.
On trouve tout ça sur la page Facebook, alors.
Ouais, sur la page Facebook. Et la toute dernière date, c'est une très belle salle, très belle ville aussi, qui fait un beau travail. C'est le Vincennes à Vincennes, le mardi 19 décembre.
Merci beaucoup, Marc. Et puis, bonne tournée encore avec ce superbe film We Blow It, coup de cœur de la séance live à découvrir absolument. À bientôt sur Séance Radio, Marc.
Merci beaucoup, Etty. Au revoir.
De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.